Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis. Bonjour Denis Siffer.
Bonjour.
Votre regard, Poutine, Netanyahou et les fantômes du passé. Face à cette actualité sombre, nous hésitons à convoquer un lexique hérité des pires tragédies du XXe siècle. Il se justifie parfois, écrivez-vous, mais en n'excluant pas d'envoyer des troupes en Ukraine, Emmanuel Macron a surjoué le tragique de l'histoire pour vous.
Oui, parce que je comprends tout à fait qu'il veuille éveiller ou réveiller les consciences européennes sur la nécessité urgente d'aider l'Ukraine avec les armes demandées par l'Ukraine et qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais je pense que là, il a mordu le trait et il a, au lieu de réveiller les consciences, c'est tenté qu'elles soient endormies, elles ne le sont pas toutes. Il a surtout semé la panique. Il a semé la panique, il a braqué ses partenaires européens et il a jeté une sorte d'angoisse diffuse dans la société française qui peut comprendre de son propos que nous sommes engagés dans un engrenage qui va conduire à un engagement physique, disons, des troupes françaises en Ukraine. Or, la conséquence de ça, c'est que, ne voulant pas aller au bout de cet engrenage, les Français risquent de devenir très réticents à aider l'Ukraine comme c'est nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire par des envois d'armes, sans distinction d'ailleurs, mais toutes les armes que demandent missiles à longue portée et avions, s'il le faut, que demandent les Ukrainiens.
Et le Premier ministre a mis en lumière mardi dernier, lors des questions au gouvernement, les conséquences qu'aurait une victoire de la Russie sur le quotidien des Français.
Oui, c'est ce que je crois depuis le début. C'est que là-dessus, je suis assez d'accord avec lui. C'est moins un conflit géopolitique, c'est moins un conflit de frontières, même si en apparence c'est un conflit territorial et un conflit de frontières, que un conflit de société et je dirais presque un choc de civilisation, mais pas celui que Samuel Huntington prévoyait au début des années 90. Un autre, celui avec une société hostile à l'Occident, très ultra-religieuse, très conservatrice sur les questions de mœurs, et puis tout à fait liberticide et antidémocratique, c'est-à-dire la société de Poutine. Et on comprend que les Ukrainiens ne veulent pas vivre de nouveau sous cette férule. Et en fait, si cette conception tout à fait liberticide de la société s'emparait de l'Ukraine, ce serait en effet très menaçant pour le reste de l'Europe. On voit très bien que déjà il y a eu la Géorgie, une partie de la Géorgie. Aujourd'hui, il mord un peu Poutine sur la Moldavie, et toujours avec la même technique, c'est-à-dire on pourrit la situation dans une zone frontalière, et ça rappelle tout à fait les Sudètes d'Hitler en 1938, c'est-à-dire que on a là une menace potentielle. Alors moi je dis pas, quand je dis on convoque les fantômes du passé, c'est vrai, mais je dis pas que c'est que Poutine et Hitler, d'ailleurs plutôt un héritage stalinien qu'il a avec le goulag et l'hostilité à tous les opposants politiques. Mais on ne sait pas jusqu'où il veut aller, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Donc effectivement, on doit être quand même extrêmement vigilant sur les ambitions expansionnistes et revanchardes de Poutine.
Et vous écrivez que nous devons donner aux Ukrainiens les armes dont ils ont besoin sans tenter le diable par un inutile discours de défi.
Oui, c'est ça, c'est ce que je reproche à Macron, c'est un inutile discours de défi. On a affaire à un personnage, encore une fois, dont on ne sait pas jusqu'où il peut aller, donc c'est pas la peine de le défier. Il faut simplement répondre à la demande des Ukrainiens pour éviter à tout prix que Poutine gagne cette guerre.
Vous revenez dans votre édito sur la situation dans la bande de Gaza et sur l'utilisation du mot « génocide ».
Oui, voilà encore. Enfin, on a fait référence à l'instant plutôt à 1938, à Munich, au Sudet, etc. Mais au Moyen-Orient aussi, il y a un retour du passé. Le mot génocide est extrêmement blessant pour les communautés juives parce que il renvoie à sa propre tragédie de l'histoire. Mais cela dit, quel mot peut-on employer d'autre quand on voit ce qui se passe à Gaza, quand on voit que les enfants, les nourrissons sont tués non seulement par les armes, mais par une famine qui est sciemment organisée. Donc là, ces gens-là sont pas, ces enfants, ces nourrissons ne sont pas au Hamas, ce ne sont pas des terroristes. Et là, on a quelque chose de tout à fait génocidaire. Et malheureusement, là, le lexique du passé et des grandes tragédies du XXe siècle nous revient en plein visage.
Et vous achevez ainsi votre édito. Poutine et Netanyahou ne viennent pas de nulle part.
Non, ils ne viennent pas de nulle part parce que ce sont en effet, pour ce qui concerne Poutine, un dictateur. Pour Netanyahou, quelqu'un qui est engagé dans une dérive fascisante avec ses extrémistes colons. Mais il y a avant eux, il y a des pouvoirs qui ont fait faillite. Et si Poutine a un certain succès, c'est aussi parce que les libéraux n'ont pas été capables de proposer à ces Russes une société démocratique. Probablement plus proche, disons, des mœurs et des attitudes, des comportements occidentaux. Et puis en Israël, les travaillistes, au début des années 2000, ont préféré se saborder plutôt que d'admettre un État palestinien. C'est la fameuse fausse négociation de Camp David, où le Parti travailliste s'est littéralement effondré, laissant la place durablement, disons, à une droite qui maintenant est devenue une extrême droite. Donc il y a une responsabilité avant l'avènement de ces personnages. Et il faudrait aussi que l'Europe soit suffisamment séduisante pour convaincre la population russe de se défaire de ce système autocratique, autoritaire et antidémocratique.
Merci, Denis Seyfer. Votre regard dans Politis, Poutine, Netanyahou et les fantômes du passé.
Merci à vous.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.